Amen. Saint en Christ, 29e jour, sainteté et châtiment. Dieu nous châtie pour notre profit afin de nous rendre participants de sa sainteté. Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, 14. Aucune portion du livre de Dieu ne jette sur la souffrance autant de divine lumière que l'épître aux Hébreux, et cela parce qu'elle nous montre ce que furent les souffrances du Fils de Dieu. En rendant parfaite son humanité, elle le rendira apte à son œuvre de souverain sacrificateur compatissant. Elles ont aussi prouvé que celui qui avait accompli la volonté de Dieu, par l'obéissance dans la souffrance, était vraiment digne d'en être l'exécuteur dans la gloire, et de s'asseoir à la droite de la majesté de Dieu dans les cieux. Il était convenable que Dieu éleva par des souffrances au plus haut degré de perfection et de salut, celui qui voulait conduire un grand nombre de fils à la gloire. Quoique fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et ayant été rendu parfait, il est devenu l'auteur d'un salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. « Je me sanctifie moi-même », a dit Jésus, et ses paroles témoignent que ses souffrances ont été pour lui le chemin de la perfection et de la sainteté. Ce que Christ a été et ce qu'il a acquis nous appartient en entier. La puissance que la souffrance a manifestée en lui pour l'amener à la perfection est le témoignage de la vie nouvelle qui se communique de lui à nous. Nous discernons à la lumière de son exemple que la souffrance est pour l'enfant de Dieu la preuve de l'amour du Père et le canal de ses plus riches bénédictions. Le mystère apparent de la souffrance ne semble plus être alors qu'une divine nécessité, la légère affliction qui accomplit et produit en nous une gloire infiniment excellente. Puis qu'il était convenable que Dieu rendit parfait par les souffrances l'auteur de notre salut, combien n'est-il pas plus convenable que nous aussi soyons sanctifiés par la souffrance? Il nous châtie pour notre profit afin de nous rendre participants de sa sainteté? De toutes les précieuses paroles que l'Écriture renferme pour les affligés, il n'y en a aucune qui nous introduise plus directement et plus profondément dans la plénitude des bénédictions que la souffrance a mission de nous apporter. C'est de la sainteté même de Dieu que nous devons être faits participants. L'Épître avait parlé très clairement du côté divin de notre sanctification telle qu'elle nous a été acquise par Jésus-Christ lui-même. Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont un, ou, car celui qui sanctifie aussi bien que ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un même Père. Hébreux 2, 11. Nous avons été sanctifiés une fois, pour toutes par l'oblation du corps de Jésus-Christ. Dans notre texte nous apparaît à notre côté de la sanctification, l'œuvre progressive par laquelle nous acceptons personnellement et nous nous approprions volontairement cette sainteté divine. En vue de tout ce qui, en nous, est contraire à la volonté de Dieu et qui doit être découvert et brisé, afin que nous abandonnions notre volonté propre pour nous réjouir en celle de Dieu, en vue de la communion personnelle aux souffrances de Christ, en vue aussi de notre entrée personnelle dans la pensée de l'amour de Dieu à notre égard, et de la joie que nous y trouvons, le châtiment et la souffrance sont les éléments indispensables dans l'œuvre de notre sanctification. Sous ces trois aspects, nous verrons comment ce dont le Fils avait besoin est aussi ce dont nous avons besoin. Ce qui était pour lui d'une valeur infinie ne sera pas moins riche de bénédictions pour notre âme. Le châtiment nous emmène à l'acceptation de la volonté de Dieu. Nous avons vu que la volonté de Dieu à notre égard est notre sanctification par Christ, plus encore qu'il nous a sanctifiés en se sanctifiant lui-même pour nous par l'abandon absolu de sa volonté à son Dieu. Sa déclaration « Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté » ou « Je me plais à faire ta volonté » tire toute sa valeur de son continuel « Non point ce que je veux ». Sous quelque forme que Dieu envoie le châtiment ou la souffrance, le premier objet qu'il a en vue est de demander et d'opérer en nous une union complète avec sa sainte volonté, afin que par cette union nous soyons faits participants de son amour. Sur tel ou tel point, sa volonté contrarie nos plus chères affections et il nous demande l'abandon de notre volonté pour la remplacer par la sienne. Lorsque ceci est fait volontairement et avec amour, il conduit l'âme plus loin et lui montre comment la demande du sacrifice en question est au fond la revendication d'un principe. En toute chose, sa volonté doit être notre seul désir. Heureuse l'âme pour qui l'affliction n'est pas une série d'actes isolés de lutte et de soumission à la volonté de Dieu, mais bien l'entrée dans l'école où nous apprenons à considérer la volonté de Dieu comme bonne, parfaite et acceptable. Il est arrivé même à des enfants de Dieu que l'affliction n'a pas été en bénédiction. Au contraire, Elle a tellement réveillé la mauvaise nature et a fait jaillir si fortement l'opposition du cœur à la volonté de Dieu qu'elle a ravi la paix et la piété qui paraissaient régner autrefois dans ce cœur. Même alors, l'affliction atteint le but que Dieu se propose. Afin de t'humilier et de réprouver, pour te faire ensuite du bien, Deutéronome 8, 16 explique encore aujourd'hui pourquoi il conduit plusieurs de ses enfants dans le désert. Nous ne nous rendons pas compte jusqu'à quel point notre religion est superficielle et égoïste. Lorsque nous acceptons l'enseignement de l'épreuve, en découvrant la volonté propre et l'amour du monde qui existe encore en nous, nous avons appris une des plus importantes leçons. Cette leçon rencontre des difficultés spéciales lorsque l'épreuve ne nous vient pas directement de Dieu, mais des hommes et des circonstances. En regardant aux causes secondes et en cherchant à les faire disparaître, nous oublions souvent dans notre indignation ou notre chagrin de voir la volonté de Dieu en tout ce que sa providence permet. Aussi longtemps que nous en sommes là, le châtiment ne porte pas de fruits et peut-être qu'il nous endurcit davantage. Si notre étude du chemin de la sainteté a éveillé en nous le désir de nous soumettre et d'adorer et de nous tenir fermes dans la volonté de Dieu, apprenons en premier lieu à reconnaître cette volonté dans tout ce qui nous arrive. Le péché de celui qui nous irrite n'est pas la volonté de Dieu. Mais c'est sa volonté que nous soyons dans cette position difficile afin d'être éprouvés. Que notre première pensée soit « cette position difficile est voulue de mon Père pour moi ». J'accepte cette volonté comme la position choisie pour m'éprouver. C'est ainsi que l'épreuve se change en bénédiction et nous amène à demeurer plus constamment dans la volonté de Dieu. Le châtiment conduit à la communion du Fils de Dieu. En dehors de Christ, la volonté de Dieu est une loi que nous sommes incapables d'accomplir, tandis que la volonté de Dieu en Christ est une vie qui nous remplit. Il est venu au nom de notre humanité déchue et il a accepté toute la volonté de Dieu telle qu'elle s'est manifestée envers nous, soit par les exigences de la loi, soit par les conséquences que le péché avait attirées sur nos têtes. Il s'est donné entièrement à la volonté de Dieu quoi qu'il pût lui en coûter. C'est dans la force que Christ nous donne par sa communion que nous aussi, nous pouvons aimer le chemin de la croix comme le meilleur pour arriver à la couronne. L'Écriture dit que la volonté de Dieu est notre sanctification et que Christ est notre sanctification. En Christ seul, nous pouvons aimer et nous réjouir dans la volonté de Dieu. Il est devenu notre sanctification une fois pour toutes en faisant de la volonté de son Père ses délices. Ô vous, les souffrants, vous tous que le Père châtie. Venez et voyez Jésus souffrant, faisant le sacrifice de sa volonté, étant rendu parfait, se sanctifiant lui-même pour nous. Ses souffrances sont le secret de sa sainteté, de sa gloire, de sa vie. Ne bénirez-vous pas Dieu pour tout ce qui peut vous faire entrer dans une communion plus intime avec notre bien-aimé Sauveur? N'accepterons-nous pas toute épreuve, petite ou grande, comme un appel de son amour? C'est là la sainteté, être un avec Christ en faisant la volonté de Dieu. Le châtiment nous amène à la jouissance de l'amour de Dieu. Plus d'un père a été surpris de voir que son enfant, après avoir été puni avec amour, s'est attaché à lui plus tendrement qu'auparavant. Ainsi, tandis que la misère et la souffrance paraissent ébranler la confiance dans l'amour de Dieu, pour ceux qui vivent loin de leur père, c'est justement par la souffrance que l'enfant de Dieu apprend à connaître la réalité de cet amour. L'action du châtier est, si clairement la prérogative du Père, elle nous conduit si directement à avouer sa nécessité, et l'amour qui le commande, elle éveille si puissamment l'ardent désir du pardon, de la consolation, de la délivrance, qu'elle devient, en effet, quelque étrange que cela puisse paraître, un des guides les plus sûrs à une expérience plus profonde, de l'amour divin. Le châtiment est l'école à laquelle s'apprend la précieuse leçon, que la volonté de Dieu est tout amour, et que la sainteté est la flamme de l'amour, consumant, afin de purifier, ne détruisant que les scories, afin d'assimiler à sa pureté parfaite tout ce qui cède à ce changement merveilleux. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. La destinée de l'homme, c'est la communion avec Dieu, la communion, l'habitation mutuelle de l'amour. Ce n'est que par la foi que cet amour de Dieu peut être connu. La foi ne peut se développer que par l'exercice, elle ne peut grandir que par l'épreuve. Lorsque les choses visibles viennent à manquer, ses énergies sont réveillées et poussées à céder pour que l'invisible, le divin, prenne possession de ce qui lui appartient de droit. Le châtiment nourrit la foi, il conduit celui qui en est l'objet à une connaissance plus profonde de l'amour de Dieu. C'est le chemin, la voie nouvelle et vivante, le chemin de la chair déchirée, en communion avec Jésus, et conduisant dans le lieu très saint. La justice qui ne veut pas épargner l'enfant et l'amour qui le soutient et le sanctifie sont unis dans la sainteté de Dieu. Ô vous, les saints que Dieu châtie, vous qui êtes d'une manière toute spéciale conduits dans le chemin, qui va à travers le voile déchiré de la chair. Vous avez la liberté d'entrer. Approchez-vous, venez et demeurez dans le lieu très saint, là vous êtes fait participant de sa sainteté. Le châtiment amène votre cœur à s'unir avec la volonté de Dieu, le Fils de Dieu, l'amour de Dieu. Soyez saints, car je suis saint. Ô Dieu saint, une fois de plus, je te bénis pour la merveilleuse révélation que tu me donnes de ta sainteté. Non seulement je t'ai entendu me dire « je suis saint », mais tu m'as invité à une communion intime avec toi en me disant « sois saint, car je suis saint ». Je te bénis pour ce que tu nous as révélé par ton Fils, par ton Saint-Esprit, par ta parole, de la voix de la sainteté. Mais comment te bénirais-je de la leçon que tu m'as donné aujourd'hui, qu'il n'y a ni perte, ni douleur, ni souffrance, ni souci, ni tentation, ni épreuve, que ton amour ne fasse servir à opérer la sainteté dans l'âme des membres de ton peuple? Père Saint, tu sais combien souvent j'ai regardé les circonstances et les difficultés de cette vie comme des obstacles? Oh! Que dès 7 heures, à la lumière du divin but que tu te proposes, il soit pour ton enfant autant d'aide, de secours. Par-dessus toute chose, que le chemin qu'a suivi ton Fils bien-aimé et qui nous montre dans la souffrance la discipline de l'amour d'un Père, le secret de la sainteté? Oh! Que ce chemin devienne le mien pour me rendre participant de ta sainteté? Amen. Saint en Christ, 30e jour, l'onction du Saint. Pour vous, c'est de celui qui est saint que vous avez reçu l'onction, en sorte que vous savez toutes choses. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, en sorte que vous n'avez pas besoin que personne vous enseigne, mais comme son onction vous instruit de toutes choses et cela est vrai, ce n'est pas un mensonge, demeurez en lui selon qu'elle vous a instruit. 1 Jean 2, 20,27. Moïse, en nous révélant la sainteté de Dieu et de ses voies pour sanctifier son peuple, nous montre les sacrificateurs, et particulièrement les souverains sacrificateurs, comme les représentants de la sainteté de Dieu dans l'homme. Chez les sacrificateurs eux-mêmes, l'huile d'onction était le symbole de la grâce qui sanctifie. Moïse devait faire lui-même une onction d'huile. Tu prendras de l'huile d'onction, et tu en feras l'aspersion sur Aaron et sur ses fils. Ainsi seront consacrés Aaron et ses fils. Exode 29, 21 Et après les indications données à Moïse, pour la fabrication de cette huile, l'Éternel ajoute pour de l'onction sainte. Ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte. On n'en répandra point sur le corps d'un homme, et vous n'en ferez point de semblable, dans les mêmes proportions, elle est sainte, vous la regarderez comme sainte. Exode 30, 25-32 Les sacrificateurs, et spécialement les souverains sacrificateurs, devaient en être oints et consacrés. Le prêtre qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction, ne sortira point du sanctuaire, et ne profanera point le sanctuaire de son Dieu, car l'huile de l'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Et il dit de même de David, Lévitique 21, 10,12 Le type du Messie, le Saint d'Israël, c'est notre roi. Psaume 89, 21 J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Le mot hébreu Messie, le mot grec Christ, sont en rapport avec ce que nous venons de dire. Ainsi dans le passage que nous venons de citer, il y a en hébreu, je l'ai messianisé de mon huile sainte. Et de même dans un passage semblable du livre des Actes 10, 38, comment Dieu a Christé oint d'esprit et de force Jésus de Nazareth. Ou encore, au psaume 45, ton Dieu t'a oint messianisé d'une huile de joie, par privilège sur tes collègues. Psaume 45, 8 de sorte que, ainsi qu'un de nos catéchismes réformés, le catéchisme de Heidelberg, s'exprime dans une réponse à la question « Pourquoi t'appelles-tu chrétien ?» Nous sommes appelés chrétiens parce que nous sommes participants de son baptême et de son onction. Christing. C'est là l'onction dont Jean parle, le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la sainte onction que reçoit tout croyant. Ce que Dieu a fait pour son Fils, afin de faire de lui le Christ, il le fait pour moi, afin de faire de moi un chrétien pour vous, c'est de celui qui est saint, que vous avez reçu l'onction. 1. Vous avez reçu l'onction de celui qui est le saint. C'est en sa qualité de saint que le Père répand l'onction et l'huile dont il oint est appelée l'huile de sainteté, le Saint-Esprit. La sainteté est, en effet, une divine onction. La sainteté est la présence invisible et cependant manifeste du saint reposant sur son oint. L'onction qui nous vient directement du saint n'est reçue, ou plutôt n'existe que dans une communion constante avec lui, en Christ, qui, lui, est le saint de Dieu. Et qui la reçoit ? Seulement celui qui s'est donné entièrement afin d'être saint, comme Dieu lui-même est saint. Le sacrificateur seul mis à part, pour être saint à l'Éternel recevait l'onction, on n'en répandra point sur le corps d'un homme. Que de chrétiens voudraient recevoir la précieuse onction pour le parfum dont elle les envelopperait? Mais non. Celui-là seul qui est complètement consacré au service du saint peut la recevoir. L'onction du saint est pour le sacrificateur, le serviteur du Dieu très haut. La sainteté devient une réalité dans une âme vraiment réveillée et qui s'est livrée pour glorifier Dieu. Les saints vêtements n'étaient préparés que pour le service des sacrificateurs. Ne l'oublions pas dans nos recherches de la sainteté. Gardons-nous de croire que le travail pour Christ nous rendra saints. Gardons-nous également de poursuivre la sainteté en dehors du travail. C'est le sacrificateur mis à part pour le service du Dieu saint. C'est le croyant prêt à vivre et à mourir afin que la sainteté de Dieu triomphe au milieu des hommes qui recevront l'onction. De l'onction nous enseigne, l'homme nouveau se renouvelle par la connaissance aussi bien dans la justice que dans la sainteté. Christ nous a fait sagesse aussi bien que justice et sanctification. Le service de Dieu et notre sainteté sont avant tout d'un consentement libre et entier, intelligent et spontané, à la volonté divine. Et c'est pourquoi l'onction, afin de nous rendre aptes au service du sanctuaire, nous enseigne toutes choses. De même que l'huile d'onction est une essence subtile qui ne se manifeste que par son parfum, ainsi la faculté spirituelle que donne l'onction est la plus insaisissable qu'on puisse imaginer. Elle avive notre perspicacité pour craindre le Seigneur, elle nous enseigne, comme par un instinct divin, à reconnaître ce qui est céleste et ce qui est de la terre. C'est l'onction qui fait que la parole et le nom de Jésus dans la parole deviennent un parfum qui se répand au dehors. Le signe distinctif de ceux qui sont oints, c'est leur docilité. La grande marque de Christ, le saint de Dieu, l'oint, c'est qu'il écoute les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Jean 14, 10,4. Il ne saurait en être autrement. L'onction enseigne, son onction vous instruit de toutes choses. Vous n'avez donc pas besoin que personne vous enseigne, c'est-à-dire, tous les croyants seront tous enseignés en Dieu. Le secret d'une vraie sainteté, c'est une relation personnelle et directe avec le saint, tous les enseignements des hommes étant subordonnés entièrement à l'enseignement personnel du Saint-Esprit. 3. Et cette onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. En vous ? Dans la vie spirituelle, il est de la plus haute importance de maintenir sans cesse l'harmonie entre ce qu'on appelle aujourd'hui l'objectif et le subjectif. Dieu en Christ au-dessus de moi, Dieu dans l'esprit au-dedans de moi. En nous, faisant un avec nous, entrant dans les parties les plus intimes de notre être, pénétrant tout, demeurant dans notre corps qui est son temple. L'onction demeure en devenant une partie de nous-mêmes. Et ceci dans la mesure où nous la connaissons et nous nous y livrons, où nous attendons et demeurons dans le silence, afin de laisser le parfum pénétrer tout notre être. Et ceci, encore une fois, non par intermittence, mais comme une expérience continue et permanente. L'onction demeure à travers toutes les circonstances et les sentiments. Je suis oint d'une huile fraîche, voilà le côté objectif, et chaque matin le croyant attend le renouvellement du don divin de la part du Père. L'onction demeure en vous, voilà le côté subjectif, la vie sainte, une vie de foi et de communion, l'onction se réalise d'instant en instant. L'huile sainte toujours fraîche, demeurant toujours, c'est là le secret de la sainteté. 4. Et comme cette onction nous instruit demeurer en lui. Nous voici encore en présence de la Sainte Trinité, le Saint duquel procède l'onction, le Saint-Esprit qui est lui-même l'onction et Christ, le Saint de Dieu, en qui l'onction nous enseigne à demeurer. En Christ, la sainteté invisible de Dieu a été manifestée et rapprochée de nous, elle est devenue humaine, en revêtant la nature humaine, afin de pouvoir nous être communiquée. Le Saint-Esprit agit et demeure en nous, il nous sort de nous-mêmes, pour nous placer en Christ, unissant notre cœur et notre volonté à Christ, nous le révélant, le formant en nous, tellement que sa ressemblance, sa pensée est comme incorporée en nous. C'est ainsi que l'onction du Saint nous enseigne à demeurer en Christ.